C'est avec plaisir que je voudrais, en quelques mots, présenter celui qui nous apportera le message ce matin, Ian Newbery. Ian Newbery est d'origine écossaise, vous vous en rendrez compte à son accent. Mais personne n'est vraiment parfait. C'est rassurant. Ian est arrivé en France il y a de nombreuses années, près de 42 ans, et à l'époque, il était venu pour une semaine, et puis apparemment, le Seigneur avait d'autres plans derrière la tête, puisque Ian est resté depuis cette époque en France. Alors, est-ce que c'était l'appel du Seigneur, ou est-ce que c'était le beau pays de France? On espère que c'était l'appel du Seigneur. Mais au début, Ian était venu pour participer à des campagnes d'évangélisation en France, pour proclamer la parole de Dieu dans notre belle terre de France avec l'organisation OM, Opération Mobilisation, avec qui il a travaillé pendant de nombreuses années. Donc vraiment une organisation qui a une vision et une passion pour communiquer l'évangile, et puis surtout pour ne laisser aucune barrière, aucun obstacle en fait se dresser entre nous et la proclamation de l'évangile. Et s'il y a une organisation qui trouve tous les moyens pour surmonter les obstacles pour communiquer l'évangile, ça va être l'organisation Opération Mobilisation. Et je pense que cette passion, en fait, c'est aussi celle que Ian a dans tout le ministère qu'il a exercé depuis, parce qu'ensuite, après, il s'est engagé dans l'implantation d'églises, et au cours de son ministère, à ce jour, il a participé à l'implantation de 5 églises différentes, et la dernière se trouve donc à Pierrelatte. Mais une des choses qui est peut-être très spécifique par rapport à Ian, c'est que pendant de nombreuses années, il s'est beaucoup intéressé et passionné pour ce magnifique don que le Seigneur nous a fait, qu'est la prière. Et ça, moi, j'ai rencontré Ian il y a une trentaine d'années, au moment où il faisait des concerts de prière, et c'était un petit peu nouveau. Et puis tout ça m'est resté un petit peu dans la tête, et puis au moment où nous, on s'est dit qu'on aimerait reparler de la prière et tout, on s'est dit qui pourrait en fait nous annoncer un bon enseignement sur ce que dit la parole sur la prière, mais en même temps nous conduire dans comment la mettre en pratique. Et de façon évidente, faire appel à Ian était la meilleure idée. Et hier, on a passé une journée assez extraordinaire. Mais ce que j'aimerais laisser avec vous, pour ceux qui étaient là, mais aussi ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas tellement le fait qu'on ait passé un bon moment ensemble, à près d'une quarantaine, mais c'est de redécouvrir qu'en fait, la prière est extrêmement riche. Je crois qu'on a à peine gratté la surface de ce que le Seigneur a en réserve pour nous dans la prière. Et hier, Ian, avec sa passion, mais sa connaissance des Écritures, nous a communiqué à quel point cette prière pouvait être riche et profonde. Alors évidemment, vous avez loupé quelque chose si vous n'étiez pas là, mais vous n'avez pas loupé quelque chose si vous retenez simplement le fait que la prière est beaucoup plus que ce que nous en avons fait. Et que nous pouvons creuser dans l'Écriture et trouver des joyaux énormes. Alors sans plus tarder, je voudrais laisser la parole et remercier encore Ian de s'être joint à nous, et puis il nous apporte le message ce matin.
Comme un vase d'argile, ton amour nous fait. deuxième chant, donc, en rapport avec la prédication, c'est tourner les yeux. Ce sera donc le thème ce matin. Le thème sera donc lever les yeux. Hein? On va chanter tourner les yeux. Prière, prions. Notre Père Céleste, en qui demeure la lumière et la sagesse, veuille éclairer notre intelligence par ton Esprit Saint. Veuille nourrir notre esprit. Veuille réchauffer et élargir notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de recevoir ta parole avec humilité, avec sobriété, avec joie et reconnaissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Vainqueur. Amen. Donc, le thème ce matin, c'est « Lever les yeux ». Voilà l'introduction et la conclusion. Vous avez tout compris. Donc, j'aimerais mettre ces trois mots dans votre cœur ce matin. Donc, vous allez ici, le plan de la prédication. L'introduction sera un peu longue, car j'aimerais, dans un premier temps, expliquer, approfondir l'importance de ce sujet de lever les yeux. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi lever les yeux, comment lever les yeux, quand faut-il lever les yeux et les conséquences de du fait de lever les yeux. Nous allons prendre un texte dans un premier temps, dans le psaume 121. On va se lever, parce que vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'il lisait ce texte, chaque fois qu'on lisait la parole de Dieu, il se levait. Mais aussi, il lisait la parole, il chantait la parole, il retournait à Jérusalem, et il chantait sûrement ce cantique du psaume 121 que vous connaissez presque par cœur. C'est un psaume magnifique. Et s'il y a des Suisses parmi nous, je pense que vous pouvez être fiers parce qu'on peut résumer tous ces textes par trois mots, lever les yeux vers les montagnes. Hein? Et c'est un texte vraiment que j'aime beaucoup. Le psaume 121, cantique de degrés, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel, et celui qui te garde, l'Éternel, est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Lever les yeux, c'est un geste banal que tout enfant doit apprendre dès son plus jeune âge. Déjà à l'école maternelle, peut-être que vous avez encore des souvenirs un peu vagues. Je peux presque entendre aussi la maîtresse de l'école en Écosse qui me dit « Newbery, lève les yeux et tu regardes ici. » Et vous savez qu'un enfant qui ne lève pas les yeux pose problème. Un enfant qui rentre de l'école, qui baisse les yeux, ça pose problème. Soit il a un problème avec les maths, soit un problème avec les copains, soit il a un problème avec le repas de la cantine qui lui est resté à travers la gorge. Il baisse les yeux et les mères qui sont les grands psychologues, elles vont faire tout ce qui est nécessaire pour qu'enfin, l'enfant, il va lever les yeux. Et vous savez que si l'enfant baisse les yeux et ne lève pas les yeux à un certain moment, ça va être un enfant rebelle. Il est important que la mère insiste avec tous les moyens qu'elle a à sa disposition, que ce soit l'affection, que ce soit la parole, avec les gestes, peu importe, pour qu'enfin elle plonge les yeux dans les yeux de l'enfant. Ce contact est important. Regarde-moi bien. Levez les yeux. Et vous savez, c'est un geste banal qu'on doit apprendre pendant toute notre vie. Il y a quelques mois de cela, je fais donc un camp avec des Chinois. Il y avait 80 Chinois et un Écossais, c'était moi. Et nous étions en Haute-Loire, et avant le camp, ils m'ont envoyé un cahier de charges. Il y avait, tenez-vous bien, 7 heures d'enseignement par jour, pendant une semaine. Deuxième point dans le cahier de charges, est-ce qu'il y a des Chinois parmi nous ? Je fasse attention. Il n'y a pas de Chinois, bon, je peux y aller. Hein? Que le Seigneur bénisse les Chinois. Hein? Et deuxième point dans le cahier de charges, avoir un entretien avec chaque personne, c'était des adultes, hein, des jeunes adultes, et de régler les problèmes individuels pendant le camp. Et puis, il y avait d'autres choses aussi, je vais m'occuper aussi de la musique. Et on a annoncé que pendant ce camp, il y aura donc une demi-heure de congé, mais c'était obligatoire de faire une marche de 3h30 vers un lac. Et nous sommes partis avec une cadence militaire, avec les Chinois. Je faisais un pas, il faisait trois pas, vous m'avez compris. Et nous sommes partis en cadence militaire vers un lac. J'ai tiré la langue et on m'a dit, avant de partir, ce serait bien si vous pouvez faire des entretiens pendant la marche. J'en pouvais plus. Ils ne sont pas arrêtés une fois, arrivés au lac, ils disent, voilà, vous avez un quart d'heure pour vous détendre, hein, pour vous baigner, et puis on va faire donc demi-tour. Et quand ce camp était terminé, j'étais complètement épuisé. Je suis resté 3 jours seul, supplémentaire, pour récupérer. Et je refais la même marche qu'on avait fait avec les Chinois, tout seul. Et tous les 5 minutes, je me suis arrêté et je levé les yeux. Et j'ai contemplé les paysages magnifiques. Je me suis fait un bien énorme. Et je passais quelques heures tout seul dans la présence de Dieu et je levais les yeux. Parce que dans la Bible, lever les yeux, c'est synonyme de prière. Avoir un regard qui est différent. De s'arrêter. Et vous savez, attention, il est dangereux pour nous-mêmes, chrétiens évangéliques, de traverser notre vie chrétienne comme des Chinois. C'est-à-dire ne jamais s'arrêter, ne pas faire une pause. L'activisme, il n'y a pas de temps pour Dieu dans notre programme. Attention. Nous avons vécu 6 heures ensemble hier. Nous avons une responsabilité de dégager un temps de qualité pour Dieu dans notre vie. Lorsque nous pouvons lever les yeux. Donc, dans la Bible, lever les yeux, c'est synonyme de confiance, faire une pause, reconnaître la grandeur de Dieu. C'est un regard de foi, un regard de dépendance sur n'importe quelle situation. Et David dit dans ce texte, je lève les yeux vers les montagnes. J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible, nous allons bien regarder ce texte. C'est un texte magnifique, c'est un texte qui est très riche. En hébreu, on peut aussi traduire cette expression, je lève les yeux vers la montagne. Je lève les yeux plus loin que les montagnes. Je lève les yeux vers l'origine des montagnes. On peut les traduire ainsi. Ce n'est pas comme un touriste japonais qui vient à Paris pour contempler la tour Eiffel. Non, c'est quelqu'un qui s'arrête, qui contemple la nature et qui va réfléchir, méditer sur les origines et sur celui qui est le Créateur. Donc, quand il dit « je lève les yeux vers la montagne », ce n'est pas un regard de touriste, mais c'est un regard vers le Créateur, le Dieu Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est précisé dans le verset 2. C'est « le secours vient de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre ». C'est le Dieu Créateur, le Dieu du cosmos. Et j'ai dit hier que Martin Luther a dit à son ami, « Vous avez un problème, votre Dieu il est trop petit !» Attention de ne pas réduire Dieu à notre image. Et si moi je suis emballé par la prière, motivé par la prière, c'est parce que j'ai un Dieu qui est grand. Le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga. Celui qui est à l'origine de toutes choses, qui connaît toutes choses, qui est partout à la fois, ce Dieu de l'univers. Et David, dans ce psaume magnifique, il indique avec précision l'objet de son regard. Regardez bien le verset 2, c'est vers le Dieu créateur. C'est vers le Dieu de l'histoire, versets 3 et 4. Le Dieu d'Israël, celui qui garde Israël. Celui qui intervient, celui qui agit pendant la nuit et le jour, 24 heures sur 24, 24 heures. Celui qui ne dort jamais. C'est le Dieu de l'histoire. C'est le Dieu aussi de nos histoires. Dieu, il nous connaît chacun. Notre passé, notre présent et notre futur. Et comme je le disais hier, j'aimerais vous encourager dans votre temps de prière de vous plonger en Dieu comme dans une mer profonde. Vous en ressortirez, renouvelé, rafraîchi et plein de nouvelles vigueurs. Et c'est ainsi que David y fait un temps de pause. J'aimerais vous encourager cette semaine, et déjà aujourd'hui, de prendre votre agenda, choisir le meilleur moment de qualité pour marquer un temps de pause. 5 minutes, 10 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Et David il s'arrête. Et tout le peuple d'Israël, il chante ses cantiques. Il faisait un temps d'arrêt pour lever les yeux vers le Dieu créateur, vers le Dieu de l'histoire. Et puis, non seulement ça, versets 5 et 6, c'est le Dieu personnel, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. Si je suis encore là, c'est un miracle. Dans le combat spirituel, parfois on reçoit des coups. Hein? Vous en savez quelque chose, hein? On a tous des hauts et des bas, mais il faut toujours savoir se lever. Et ce qui est formidable ici, ce texte, c'est qu'il est dit, c'est le Dieu personnel qui te garde. Et comme moi je suis découragé, ça m'arrive aussi. Je vais prendre un dossier encouragement que j'ai dans mon bureau et je vais sortir ce dossier là où je marquais toutes les interventions de Dieu dans ma vie. Et ça m'encourage, ça me booste. C'est le Dieu personnel. Et c'est le Dieu qui est éternel, qui nous garde dès maintenant et à jamais, verset 8. Donc, souvent dans l'Ancien Testament, Dieu il demande à son peuple de lever les yeux. Vous en connaissez, je pense, certains, mais Abraham, Dieu lui a demandé de lever les yeux. Josué, avant de prendre donc cette ville de Jéricho, Dieu lui demande de lever les yeux. Et lever les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est laisser Dieu prendre du terrain en nous avant de vouloir prendre du terrain pour Dieu. C'est ça la vraie prière. C'est laisser Dieu prendre du terrain en nous avant de vouloir prendre du terrain pour Dieu. Et Josué, avant d'aller à Jéricho, il s'arrête, il lève les yeux. Donc, lever les yeux, c'est un regard de foi, d'attente, de confiance, avant de vouloir prendre du terrain pour Dieu. Prier, c'est dire à Dieu que je ne peux pas le faire et j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me passer de toi. C'est reconnaître que Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, que ce soit pour votre vie personnelle, que ce soit pour votre Église. Un regard vers ce Dieu tout-puissant. Et j'aimerais déjà ce matin vous encourager à avoir un regard nouveau et de plonger votre regard en Dieu et d'épuiser une force nouvelle pour être motivé à bloc dans la prière personnelle et communautaire. Lever les yeux implique non seulement un changement de paysage, mais une vision différente. Un changement de regard, un changement d'attitude radical. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas changer de perspective. Et comme je le disais hier, prier, se laisser tailler par Dieu, comme un morceau de marbre devant le sculpteur disponible, ou bien comme la toile devant le peintre disponible. C'est un regard différent. Cette expression en hébreu, lever les yeux, j'ai appris cela à 22 variantes différentes. C'est très riche. Et c'est un regard qui est autre. C'est un regard qui va changer notre mentalité, notre comportement. C'est un changement de rythme, c'est un changement de tonalité. Et là, j'aimerais m'adresser à des musiciens et je tiens à les remercier pour ce matin aussi, aussi pour hier, parce qu'ils m'ont accompagné dans le séminaire. Et vous savez que les grands musiciens savent très bien le faire, changer de tonalité, surtout Beethoven, hein. Dans la sonate numéro 8, ça commence de manière dramatique, c'est grave, mélancolique, je pense que vous le connaissez par cœur, hein, j'ai les notes devant moi, ça commence. On tourne les pages, je suis en train de l'apprendre au piano, on tourne les pages, parce qu'au début c'est grave, c'est mélancolique, c'est plaqué, c'est l'hiver, c'est l'orage, c'est la tempête, et soudain on tourne la page, et c'est le printemps. C'est la fleur, c'est la chaleur, c'est les couleurs. Changement de tonalité. Levez les yeux, frères et sœurs, c'est un changement de tonalité. Levez les yeux, c'est se laisser porter par une puissance qui ne nous appartient pas. Une fois par an, je fais des magasins avec ma femme. Et c'est moi qui ai la carte bleue. Hein. Le point culminant, c'est pour après. Hein. Attends, pas trop vite. Hein. Le point culminant de cette journée, c'est la fin. Quand je suis dans l'ascenseur pour rechercher la voiture de nouveau, et j'appuie sur le bouton. Je suis fatigué parce que je suivais ma femme comme un petit chien, bien sûr. Je disais oui à tout ce qu'elle disait et ça m'embêtait beaucoup. Et je suis fatigué, je suis dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton. Je n'ai plus envie de marcher, je me laisse porter par une puissance qui ne m'appartient pas. Vous avez compris, se laisser porter par le Dieu puissant, par le Dieu d'Israël, par le Dieu de l'histoire. Prier, ce n'est pas dire les choses à Dieu, mais se laisser porter par lui. Même si vous ne dites rien à Dieu, ce n'est pas grave, parce que Dieu, il va vous parler. Prier, se laisser Dieu me parler, et c'est être à l'écoute de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué que Dieu vous a donné deux oreilles et une langue. Heureusement, un Écossais est venu pour vous le faire remarquer. Vous n'avez jamais remarqué? Et pourquoi? Heureusement, ce n'est pas le contraire. Hein? Dieu nous a donné deux oreilles et une langue pour nous faire comprendre la primauté de l'écoute sur la parole. Il est deux fois plus important de savoir écouter que de savoir parler. Et nous, les étrangers, on le sait très bien. Nous le savons très bien. Il est deux fois plus important de savoir écouter que de pouvoir parler. Et de même, dans la prière, il est important de savoir écouter Dieu. Et j'aimerais vous poser une question simple et profonde, à savoir, qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire ce matin, pour ceux qui étaient au séminaire hier? Et qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire ce matin? Est-ce que ce matin, vous êtes en train de vous regarder vous-même? Vous êtes en train de regarder les autres? Ça va vous décourager, les circonstances, l'Église. Peut-être que ça va vous décourager. Eh bien, moi, je vous invite ce matin à lever les yeux. Donc, pourquoi lever les yeux? Pourquoi lever les yeux? Et je vais vous donner donc deux points. Premièrement, c'est une source de protection. Nous voyons, on revient à notre texte, verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. » C'est une source donc de protection pour éviter la chute. Et nous avons parlé hier de l'importance de demander cette protection de Dieu. Ce n'est pas pendant la chute qu'il faut prier. Ce n'est pas pendant la tentation qu'il faut prier, c'est avant. Et si vous êtes tenté dans un domaine quelconque, que ce soit par Internet, que ce soit par autre chose, il faut demander une protection avant et maintenant. Pourquoi nous avons besoin de lever les yeux? Eh bien, pour avoir une protection, pour éviter la chute. Parce que nous voyons ici qu'il y a des attaques, il y a des attaques qui viennent de l'extérieur, le soleil, la chaleur. Et la lune, la protection de l'extérieur. Mais nous avons besoin aussi, verset 7, d'une protection de l'intérieur. Il est dit, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Est-ce que vous avez demandé une protection pour votre âme? Pour votre jardin intérieur? Et nous avons tous besoin ce matin de demander une protection de Dieu, de notre âme. Et Dieu, il nous protège extérieurement, intérieurement, et même pendant nos voyages, notre départ et notre arrivée, il nous protège donc éternellement. Vous savez qu'il y a la tendance, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la tendance de baisser les yeux. On dit en français, baisser les bras, c'est pareil. J'ai remarqué lorsqu'on va dans une ville pour la première fois, par exemple, si vous allez sur les Champs-Élysées, on lève les yeux et on regarde tous les bâtiments qui sont sur le côté. On regarde, on lève les yeux. Lorsque vous y retournez pour la deuxième fois, on ne lève pas les yeux. Tout ça, on connaît. On baisse les yeux. Vous remarquez la prochaine fois quand vous allez à Paris. Et vous savez qu'avec l'âge, parfois, il y a la tendance de baisser les yeux. Hein. On était jeune autrefois. On a fait des grandes choses pour Dieu. Dieu autrefois, mais vous savez qu'autrefois, c'était formidable hein, dans notre Église. Hein. Mais si maintenant, les jeunes et tout ça, ils n'ont pas de cravate et tout ça. Hein. Autrefois. Et maintenant, Dieu, il est le même aujourd'hui, éternellement. Donc, nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider à lever les yeux, de ne pas regarder nous-mêmes, de ne pas regarder les autres, mais de trouver un zèle nouveau, un ferveur nouveau dans la personne de Dieu lui-même et de lui demander une protection extérieure et intérieure. Nous avons besoin, deuxièmement, pourquoi nous avons besoin de lever les yeux pour avoir une puissance spirituelle, pour qu'il y ait des conversions, pour qu'il y ait des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. On est tellement bien entre nous, mais que se passe-t-il avec des gens qui habitent à côté? Dans les villages-là, il n'y a pas de témoignages à côté de nous. En France, on peut encore partir pendant 100 kilomètres sans trouver une église évangélique. Il y a des centaines de villes et de villages. Et est-ce que nous avons vraiment cette vision sur le monde, une fenêtre ouverte sur le monde? Ou est-ce qu'on est tellement concentré sur nous-mêmes qu'on devient égoïste? On est un peu comme le petit village dont je parlais hier. Hier, c'est, on est un peu comme vers soi. Tout est vers soi. Hein? C'est à côté de Genève. Hein? Vous connaissez le petit village hein? Vers soi. Et Dieu nous invite, lorsque nous avons le regard fixé sur Dieu, d'avoir une compassion pour les autres. Nous avons besoin d'une protection, mais nous avons besoin d'une puissance et une compassion. Et ce qui me manque le plus, c'est une compassion pour les gens. Déjà pour les chrétiens, pour les frères et sœurs. Et je demande à Dieu, très souvent, je me mets à genoux, et je demande, Seigneur, veuille me donner une nouvelle compassion pour les âmes, pour mon voisin, pour les gens qui habitent dans la rue, pour les pays de l'Afrique du Nord. Et d'autres pays. Nous avons besoin d'une puissance. Et quelle est la source de cette puissance? Chercher des choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est dans la personne de Jésus. C'est pourquoi Dieu il nous invite à lever les yeux. Parce que Jésus, il se trouve à la droite de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout nom. Et ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et lorsque je lève les yeux vers Jésus, la source de puissance, pour faire repousser, reculer les puissances des ténèbres, pour faire briller la lumière dans les ténèbres. Prions aussi pour que nous puissions recevoir cette compassion de Dieu lui-même ce matin. J'en ai besoin. Et nous pouvons tous prier dans ce sens. Comment lever les yeux? Et j'arrive vers ma conclusion, vers la pratique. Accrochez-vous. J'arrive. Premièrement, s'entraîner. Lever les yeux, ce n'est pas automatique. Il faut s'entraîner. Lorsque j'avais 13 ans, je pris des cours de piano en privé pendant 3 ans. Et mon professeur, chaque fois, il me criait après, « Yann, lève les yeux. Ne regarde pas tes mains, ne regarde pas tes pieds, tu regardes la partition. » Et tous les musiciens, tous les pianistes le savent, que jouer du piano, ce n'est pas automatique. Hein? Qui ne joue pas le piano? Levez la main. Voilà. Imaginez, ce sera infernal, si vous demandez à chacun d'aller nous jouer un morceau, par exemple. Là. Ce n'est pas évident. Hein? Ça demande une concentration soutenue, la rigueur, lire chaque note, trouver le bon doigté, le bon rythme, et tout ça en même temps. C'est tout un art. Un bon pianiste, il ne regarde pas ses mains, il regarde la partition. Et ça demande de l'entraînement. De l'entraînement. Et il y a des personnes, pour certains morceaux, je peux le faire, on peut jouer aussi sans la partition, mais là, il faut un entraînement. Moi, je dois jouer un morceau au moins 50 fois pour pouvoir le jouer sans la partition. Si quelqu'un fait mieux, bien, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas évident. Ça demande de l'entraînement. Ça demande de la constance, ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline de lever les yeux. Et j'aimerais donc vous encourager à vous entraîner à lever les yeux. Donc, il faut s'entraîner dès maintenant. Lever les yeux. Comment? Il faut lever les yeux. Il faut s'entraîner. Et deuxièmement, il faut détacher le regard de certaines choses qui nous font mal. Il faut détacher le regard de certaines choses qui peuvent même abîmer notre âme. Et là, les hommes, je vous demande devant Dieu, de prendre une décision de fermeté, de ne jamais regarder les choses qui vont vous abîmer intérieurement, que ce soit des images pornographiques ou autres. Et vous savez que l'Internet, malheureusement, ça augmente la tentation. Et de dire, stop, je prends position et je reçois de Jésus une nouvelle puissance pour résister. Donc, il faut détacher le regard. Troisièmement, il faut s'attacher le regard. Il faut plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et c'est Job, dans le livre de Job, 22, verset 21, il dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Arrêtez de regarder les autres. Arrêtez de regarder vous-même. Mais plongez-vous dans cette parole de Dieu. » S'entraîner, détacher le regard, attacher le regard, et puis il faut lever les yeux constamment. Constamment. Ce n'est pas seulement quand tu viens à l'étude biblique, ou quand tu viens au culte, mais constamment, quand tu es sur la route. Je me souviens j'ai oublié de dire hier, quand vous priez, ne fermez pas les yeux quand vous conduisez, s'il vous plaît. C'est très dangereux. Et vous savez, je me souviens de Mickaël, mon fils, quand il conduisait ma voiture pour la première fois. C'était une nouvelle voiture Golf qu'il venait d'acheter. Je tremblais comme une feuille. Mais pas une feuille morte, hein, une feuille vivante. Hein. Je tremblais. Et tout à coup, il y avait un virage devant lui. Il regardait ses pieds et on a traversé le champ. Hein. Et j'ai dit, il faut constamment que tu lèves les yeux. Tu ne regardes pas tes pieds. Sinon, je ne monte plus avec toi. Et vous savez, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il faut constamment. Parce que parfois, on est surpris par un virage. On est surpris par les circonstances qu'on ne maîtrise pas. Il faut constamment revenir à ce Dieu qui est grand, qui est puissant. Il faut toujours avoir nos regards plongés dans la parole de Dieu. Constamment. Il ne faut pas seulement lever les yeux quand tout va mal. Quand tout va bien, on peut remercier le Seigneur pour les bénédictions. On peut remercier le Seigneur pour les frères et sœurs qu'il a placés à côté de nous. Constamment. Ce n'est pas toujours évident. Un jour, j'étais en train de préparer un message, le téléphone sonne, c'est mon fils. Papa, est-ce qu'on parlait à la piscine? Il avait 6 ans. Je dis non. Ton père est en train de préparer pour son séminaire, il va partir demain. Ce n'est pas le moment. Clac, j'ai remis le téléphone. 2 minutes après, le téléphone sonne, le même personnage, une petite voix tremblante qui dit, « Papa, je voulais juste te demander si tu as changé d'avis. » Mais je dis, « Mais écoute, ça fait 2 minutes que tu m'as appelé. » Non, c'est non. Je repris donc mes études dans la parole de Dieu. Chose très spirituelle. Une demi-heure après, le Saint-Esprit m'a repris. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon fils. Il dit, « Michael, viens, on va à la piscine ensemble. » Et nous sommes allés ensemble à la piscine. Et quand j'étais au fond de la piscine, le Seigneur m'a parlé. Et c'était profond. Le Seigneur m'a dit, « Occupe-toi de tes propres enfants avant de t'occuper des autres. » Et vous savez, il y a maintenant 25 ans de cela, cette phrase-là a sauvé mon ministère. Et les dangers pour les serviteurs de Dieu de courir dans toutes les églises à travers le monde, de négliger la propre famille. Et il faut être à l'écoute de Dieu à tous les moments. Et Dieu, il peut nous parler par nos enfants aussi. Et si vos enfants, ils disent, « Mais papa, on ne passe pas assez de temps avec toi ou à la mère », eh bien, c'est le temps de dire, « Stop, je fais trop, je vais m'occuper de mes enfants. » Et j'aimerais vous encourager à prendre un temps de qualité avec vos enfants, avec les petits-enfants, à plonger vos yeux dans leurs yeux et regarder et aussi les écouter. Donc, pour terminer, quand faut-il lever les yeux? 2 avertissements. Premièrement, ne pas attendre. Ne pas attendre. Il y a un homme dans Luc 16, verset 23, il a levé les yeux, c'était trop tard. Il était déjà dans l'enfer. Il y a peut-être des personnes ici, vous n'avez jamais levé les yeux. Peut-être vous venez ici parce que des gens sont sympas, parce qu'il y a du café avant le culte. Ça se passe en bas. Je suis allé. Oh, les gens sont sympathiques, sont généreux. Il y a la joie. C'est bien. Mais vous ne connaissez pas la joie de Dieu dans votre vie. Et Dieu, il veut venir dans votre vie. Même si vous baissez les yeux, même si vous ne levez pas les yeux, eh bien Dieu, il vient vers vous, il plonge son regard vers vous, il veut vous transformer, il veut faire de vous une nouvelle personne. Donc de ne pas attendre, de dire à Dieu, j'ouvre mon cœur, je veux te recevoir dans ma vie, je crois que Jésus, il est mort pour mes péchés, maintenant je fais le pas et tu vas faire de moi une nouvelle personne. C'est ça l'évangile, c'est Dieu qui vient vers nous. Donc de ne pas attendre, de ne pas attendre. Quand faut-il lever les yeux? Dans des situations difficiles, voire impossibles. Jésus, dans Matthieu 14, il est devant une foule de 5000 personnes. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de restaurant à côté. Il doit les nourrir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il lève les yeux. Conséquence, 5000 personnes étaient nourries. Et là, j'aimerais dire quelque chose d'important. Chrétien, chaque fois que tu lèves les yeux, ça va avoir des conséquences sur les autres. Donc, dans toutes les situations, même difficiles, voire impossibles. Est-ce que vous connaissez des situations bloquées, intenables? Des problèmes financiers, le problème de travail, des problèmes peut-être avec les autres, des conflits? Je vous invite à lever les yeux lorsqu'on traverse la difficulté. Deuxièmement, lorsqu'on traverse l'épreuve, Jésus élève les yeux. Devant la mort, Jésus élève les yeux. Devant la mort de Lazare dans Luc chapitre 11. Jésus, il s'approche du tombeau, il lève les yeux. Conséquence, démonstration magistrale de la puissance de Dieu. Le mort, il va sortir, il va être ressuscité. Il revient à la vie. Et le texte nous dit, beaucoup de juifs ont cru en lui. C'est la conséquence. Et peut-être vous traversez un moment de deuil. Peut-être vous traversez le désert spirituel, là vous avez décroché un peu. Et si dans ces moments-là, on lève les yeux, tous les gens dans votre entourage vont être touchés. Vous savez que plus de personnes sont venues à Christ par des chrétiens qui ont persévéré dans les difficultés, qui sont restés attachés à Dieu, qui ont levé les yeux. C'était un témoignage puissant. C'était mieux qu'un traité. C'est mieux que le porte-à-porte. Et j'aimerais vous encourager, aujourd'hui, si vous traversez des moments difficiles, de lever les yeux parce que Dieu, il va aussi bénir d'autres. Donc, dans le moment difficile, devant la mort, Jésus lève les yeux. Et puis, pour terminer, devant le travail qui reste à faire, Jésus, il lève les yeux dans Jean 4, 34. Regarde les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et j'aimerais vous encourager à lever les yeux ce matin sur votre ville, sur votre département, sur la France, d'avoir ce regard de Jésus qui était ému de compassion. Vous savez que John Wesley, c'est un homme révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il était dans un petit village et puis il y avait 5000 personnes qui venaient pour l'écouter, déjà à 6 heures du matin, dans les champs. Hein. Il commence à fonder des églises et un pasteur anglican, peut-être, est venu vers lui et dit, « Monsieur, est-ce que vous savez que c'est notre paroisse ici? Ça, c'est notre terrain. » John Wesley lui a dit, « Monsieur, je regrette, ma paroisse, c'est le monde. Et ta paroisse, c'est quoi? C'est ton petit jardin? C'est ton salle de bain? C'est ta maison? Ou bien c'est le village? Ou est-ce que c'est vraiment le monde? » Et Jésus nous invite ce matin à lever les yeux et à capter une nouvelle vision de ce monde et de personnes qui ne connaissent pas le Christ. C'est révolutionnaire. Et j'ai parlé de John Wesley parce qu'il a envoyé des missionnaires parmi les Indiens, parmi les Esquimaux, parmi les Africains. Ma paroisse, c'est le monde. Et lorsqu'on lève les yeux, on ne peut pas rester des chrétiens égoïstes. Nous avons envie de partager avec d'autres. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il est dit, je vais le dire en anglais, pour tous ceux qui comprennent l'anglais, lorsque les disciples, ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus seul, il est dit dans le texte, par la suite, dans le livre des Actes, qu'ils ont bouleversé le monde. They turned the world upside down. Accent écossais. Hein? They turned the world upside down. Ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus seul. Source de protection, source de puissance. Et je termine. Comment est-ce que vous allez répondre à cette invitation ce matin? C'est ma préoccupation. Et j'aimerais conclure. J'aimerais vous inviter à recevoir une protection, une puissance. Comment? Il faut s'entraîner, détacher le regard, attacher le regard, concentrer le regard quand il ne faut pas attendre. Dans des situations impossibles, quand je souffre, quand tout va de travers, quand je ne vois pas des résultats, je reste attaché à Dieu lui-même. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux, courons avec persévérance vers le but proposé, dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Il est la source de notre protection et aussi notre puissance. J'aime beaucoup ce cantique, c'est un vieux cantique, simple, profond, qui résume ma prédication. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. On va juste avoir une minute de silence, et je vais jouer au piano. On va chanter ce cantique debout, mais une minute, on va juste se courber. On va demander au Seigneur de nous parler, de nous aider, ne pas regarder les autres, ne pas regarder les circonstances, mais de plonger notre regard en Dieu pour avoir une source de protection et source de puissance. J'aimerais juste vous remercier à chacun pour la qualité de l'accueil, pour les personnes qui m'ont reçu pendant ce week-end chez eux, pour tous les bons repas qu'on a mangés ensemble. J'ai déjà fait mon lit, j'espère que je n'ai pas apporté des choses qui ne m'appartiennent pas. Ça m'arrive très souvent d'avoir beaucoup de serviettes dans notre maison. Peut-être la vôtre. Avant de partir, j'aimerais juste dire deux choses. Donc, un grand merci à chacun pour la qualité de l'accueil, aux anciens qui m'ont fait confiance, qui ne me connaissaient pas, sauf John, vaguement. Un grand merci. J'ai eu beaucoup, beaucoup de joie d'être au milieu de vous. Et j'aimerais juste prendre une minute pour présenter quelques livres pour des personnes qui n'étaient pas au séminaire. Ce n'est pas grave, c'est la grâce. C'est-à-dire que vous avez la possibilité donc, de prendre le manuel. Et dans le manuel, vous avez 5 semaines de travaux pratiques, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pendant 5 semaines, des choses qu'il faut faire. Et vous pouvez avoir un aperçu donc, du séminaire, même si vous n'étiez pas là. Et donc, je vous encourage à prendre un exemplaire. Il me reste encore quelques-uns. Si vous voulez avoir un exemplaire pour quelqu'un qui n'était pas là, donc ça, c'est bien aussi. Donc, j'aimerais encourager, parce que j'ai acheté 30 de ces livres avant de venir. Je suis à la CLC pour acheter ce livre, « Connaître Dieu ». C'est très important d'avoir une connaissance précise et profonde de Dieu si nous voulons avoir une vie de prière joyeuse. Nous avons dit hier, ce n'est pas nos sujets de prière qui sont importants, mais vraiment une vie ancrée, enracinée en Dieu lui-même. Je présente encore le livre de Peter Maiden, c'est le responsable d'opération mobilisation actuelle. Vous pouvez prier aussi pour le bateau OM et le Hong Kong. Il était pendant 9 mois en réparation. Il y a 450 personnes à bord, donc des chrétiens. Donc c'est un bateau qui voyage dans le monde pour l'évangélisation du monde. Et je vous demande de prier pour ce bateau. Il était en réparation pendant 9 mois. Et il y a 3 jours, il est parti, donc en mer. Il a dû faire demi-tour parce qu'il avait encore un problème technique. Donc il a dû revenir à Hong Kong. Il va rester à Hong Kong jusqu'à fin janvier. Et moi, je vais faire une croisière spirituelle sur le bateau le mois de juillet avec ma femme. Hein. Merci de prier aussi pour moi et pour mon ministère sur la prière. Mais ça, c'est un livre vraiment qui est formidable sur la valeur de la vie et comment communiquer ces valeurs à nos enfants, à nos jeunes, avec des questions. C'est aussi un livre qui est très, très bien pour les groupes de jeunes. Si vous avez du mal à prier, donc j'ai présenté aussi un livre que j'aime bien, de William Barclay, « Les prières du soir et du matin ». Ce sont les prières toutes faites pour le matin et le soir. Je suis toujours content le matin quand j'ai un peu la tête vide et de trouver la prière de quelqu'un d'autre que nous pouvons utiliser. Et puis, le livre de M. Kuhn, donc « L'art de prier les psaumes », c'est un livre qui a classé tous nos sentiments. On peut trouver un psaume qui correspond donc à une prière qui correspond à nos sentiments, ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, le meilleur livre qui existe, à mon avis, sur la prière, ce n'est pas le mien, c'est « Redécouvrir la prière ». C'est écrit par un médecin, un psychiatre, Pablo Martinez, que je suis allé écouter, c'est vraiment formidable, et ça va vous faire un bien énorme. Et j'aimerais vous encourager à investir dans de bons livres. Un livre, ça peut transformer votre vie. Et puis, vous avez donc « En avant », c'est numéro 1, 2, 3, 4. Et j'avais le maître et son disciple aussi, mais si il y a certains livres qui ne sont pas disponibles, vous pouvez les commander. Et ça, c'est un livre pour revoir les bases, consolider les bases, renforcer les bases pour que nous puissions construire haut. C'est quelqu'un qui a dit, si nous voulons construire haut, il faut creuser profond. Et j'aimerais vous encourager, chacun, des jeunes, des moins jeunes, même des personnes qui sont plus âgées, de vous plonger dans ces livres et de revoir vos bases. Et puis, le grand livre de Yann Hubery, « Le désir et le plaisir de prier », 12 pages, vous connaissez, hein. Et si on note sur les petits dessins, les citations, les versets bibliques, vous avez 2 agrafes pour 2 euros. Hein. Donc, c'est à votre disposition. Hein. Et ça peut aussi encourager quelqu'un, que le Seigneur vous inonde de sa joie. Et tous ces livres, c'est comme des bonbons. Certains, il faut croquer. D'autres, il faut sucer. Mais tous mes livres, il faut les avaler. Et malheureusement, il faut aussi les acheter. Merci beaucoup.
Après, il faut aussi les digérer, Yann. Voilà, merci en tout cas Yann pour ce temps passé ensemble. On a remercié Dieu déjà hier parce que c'était vraiment une bénédiction de t'avoir. Moi je vais demander à quelqu'un de venir, c'est Jacques, oui il est Jacques, il est là. Et puis pour tout le monde, pour Yann et puis pour les peut-être les personnes qui n'étaient pas là hier, Jacques va nous dire en quelques mots ce qu'il a vécu.
Bonjour. Merci, Jean-Paul m'a dit que je pouvais me lâcher. J'ai une heure devant moi. Super, hein? Vous allez avoir du retard pour le repas. Hein? Yann, vraiment merci. Je vais exprimer ce que j'ai sur le cœur, mais j'ai le sentiment que c'est un sentiment justement partagé. Alors, c'était une nourriture spirituelle, mais si on doit vraiment parler de nourriture, d'enseignement, on peut dire qu'on a fait un sacré festin depuis hier matin. Et c'est un peu comme un moment de fête où on s'est retrouvé dans notre famille avec le Seigneur. Maintenant, il va falloir digérer tout ça, hein, vous êtes d'accord? C'est plein de bonnes choses. Tout compte fait, je suis assez content. Je pars dans 3-4 jours en Guadeloupe, donc je vais pouvoir digérer tout ça un peu avec un climat un petit peu plus clément. Et puis, il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai retenu une ou deux petites phrases, surtout, parce que j'ai trouvé ça tellement beau de la façon dont Yann l'a dit, l'a exprimé. Déjà, une chose qui est assez sympa à se redire. La prière, ce n'est pas un devoir, c'est une participation. C'est vrai, des fois, qu'on a... Moi, j'ai encore des vues d'enfants, des fois. Vous voyez comme on grandit encore, hein, 55 ans. Parce que, oui, c'est vrai, la prière, j'avais l'impression que c'était une forme de devoir, peut-être. Une forme de joie aussi, parce que quand ça baigne, quand tout va bien, on a vraiment envie de dire merci au Seigneur. Quand on a des galères, on a moins envie de lui dire merci, des fois. Mais on apprend peut-être à discuter différemment avec lui. Et puis, ce que j'ai bien aimé, à un autre endroit... Ah oui, j'ai bien aimé ça. Prier, c'est avoir la dignité d'être un acteur dans le théâtre de Dieu. Tout qu'on fait, la vie, c'est un théâtre, hein. C'est vrai. Enfin, ça m'a beaucoup parlé, moi je me suis senti vraiment porté. C'était une journée complètement bénie. Ce matin encore, c'était quelque chose de vraiment fort pour moi, et je pense pour vous aussi. J'ose me faire le haut-parleur de toute la famille. Et j'ose dire ma petite prière que j'avais fait pour Yann. Oui. Alors je ne sais pas. Ah, mais elle est déjà à l'écran. Yann, je voudrais déjà mettre à profit ce que tu nous as enseigné hier, hein, structurer les choses, essayer d'avoir un plan, hein, de façon justement à prendre des repères quand on perd un peu pied. J'aurais voulu te demander de venir, s'il te plaît. J'avais envie de me sentir près de toi. J'avais vraiment envie de me sentir près de toi. Parce que, voilà, ma prière aujourd'hui. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes enseignements que tu nous permets de découvrir progressivement. Merci de nous avoir offert le privilège de la connaissance et l'approche de la prière pendant ce séminaire de samedi. Il restera gravé dans notre cœur et notre esprit désormais. Et avec ton aide, nous permettra dès à présent d'avoir un regard nouveau dans nos relations de prière avec toi et nos frères et sœurs. Merci de nous avoir envoyé Yann. Nous avons ressenti son attachement profond à tes enseignements et il a su, par ta grâce, Seigneur, nous transmettre l'envie d'enrichir notre vie de prière pour nous approcher mieux de toi et de la sagesse que tu veux nous offrir pour aller encore plus loin avec toi. Aujourd'hui, Yann va repartir pour continuer à annoncer le message que tu as mis dans son cœur. Nous te demandons de le bénir ainsi que sa famille, de l'encourager, de l'inspirer de façon à ce qu'il puisse continuer à porter le plus haut possible la flamme de l'espérance, de la foi et la conviction du bonheur d'une vie de prière enrichie en ton nom. Nous nous unissons pour te dire merci Seigneur. Au nom de Jésus, amen. C'est pour toi?
C'est pas pour toi.
Mais tu peux prendre l'enveloppe aussi.
Les écourcés.
Voilà, merci.
Merci Jacques, je crois que c'est vraiment le... Tu as été vraiment le haut-parleur, le porte-parole. Yann, j'aimerais encore juste te dire, quand même hier tu as fait une erreur. Tu as répété une erreur. Il faut quand même que je te le dise. Édimbourg, c'est pas par là. C'est plutôt par là. C'est le nord, c'est là-bas. Merci beaucoup et bon retour à toi. Que Dieu te bénisse abondamment.
J'aimerais partager avec vous les activités de l'Église pendant cette semaine et les semaines qui suivent. Cette semaine, lundi 19h30, le conseil d'anciens, priez, continuez de prier pour les anciens. Mardi 14h30, l'étude biblique des aînés, ici. Samedi, il y a plusieurs choses. Samedi à 9h, rendez-vous du groupe de jeunes pour le départ. 8h30. Ah, voilà, il y avait une petite erreur. 8h30. 9h, vous serez en retard, vous ratez le train. 8h30, donc départ pour le week-end de ski, je pense, j'imagine. 10h, le club d'enfants ici, 10h, 12h. Il y a des papillons au fond. Vous les prenez, c'est super, j'ai beaucoup aimé. C'est un gros tube de peinture, vous savez, la petite fourmi qui est formidable. C'est un petit tube de peinture et c'est marqué « Dieu remplit ma vie de couleurs ». Et on appuie et c'est marqué « C'est cool » dessus. Ça coule et c'est cool. Donc important, prenez, invitez vos petits voisins, 4-13 ans, important. Samedi encore, 17h à Gex, explosion de louanges. Dimanche, notre culte. Voilà pour les... Oui ?
Samedi, à 1h, groupe d'ados.
À 13h, groupe d'ados. Merci.
Et mardi soir, mise en pratique de la prière pour la cellule de Prefsaint qui sera chez Brillant Hélène à 20h30.
Voilà, c'est complet pour cette semaine. Moi, je voudrais dire encore, il y a une tâche à ne pas oublier pour ceux qui ont participé au séminaire hier, c'est penser cette semaine à envoyer un email à Yann, la page 135 du manuel. Voilà, rappelé. Une autre annonce encore qui concerne les couples. Qui c'est qui est amoureux ici ? Oh, il y en a plein qui sont amoureux. Ouais, il y en a peut-être qui n'osent pas l'avouer encore. Voilà, je vous invite à réfléchir. Passez une soirée de la Saint-Valentin, 14 février. Elle et lui, Saint-Valentin. C'est super. Il y a un menu, je ne vous dis pas. Je vous dis juste la première entrée, hein, trilogie de panna cotta de foie gras. Ça, c'est la première des trois entrées.
Et le dessert ?
Il y a des trucs au chocolat, Manuel.
Ah, bon.
Non, si vous avez envie de passer un Saint-Valentin dans un milieu chrétien, il y a toute une organisation qui est faite à ce sujet-là. Inscrivez-vous rapidement, il n'y a pas 500 places. Hein. Voilà, je vais afficher ça au fond, vous lirez, ce n'est pas la peine d'en faire plus. C'est à Echenevet, à la salle de la Chenaille. Voilà, maintenant, autre chose aussi à penser, dans nos prières aussi, pensons aux personnes qui sont malades dans l'Église. On va citer juste quelques personnes pour lesquelles il est important de continuer à prier. C'est pour Roby spécialement. Continuons à prier aussi pour... ça y est, j'ai oublié. C'est un petit Denis et sa femme Gilberte, voilà. Pour Gilberte aussi, pour des questions de santé, ne peut plus venir à l'église, mais qui, elle, pense à nous. Continuons à prier pour elle aussi. Et puis, prions pour Anna. Les nouvelles sont bonnes d'Anna. Elle est dans ce centre où elle est prise en charge et où, semble-t-il, elle est bien. Elle est heureuse dans ce centre. Mais on veut vraiment, vraiment, là, faire une grosse chaîne de prière pour elle, pour Jean-Michel qui est là aussi ce matin, pour la famille, pour les enfants. On veut vraiment continuer à porter cette famille devant Dieu. C'est vraiment un challenge de prière pour chacun et pour l'Église. Donc, pensons-y vraiment. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Oui ? Voilà, vous avez entendu. À Libéry, si vous avez besoin de quoi que ce soit, une commande va être faite. Voilà. Je vous invite à vous lever. Et je vous lirai juste quelques versets, peut-être un peu plus longs que d'habitude. Mais par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, par rapport à ce qu'on a entendu ce week-end, on trouve dans le chapitre 3 de l'Apocalypse la chose suivante. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis comme bénédiction après ce que nous avons entendu ce matin, pour chacun de nous, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Amen.